J'ai le plaisir aujourd'hui, d'une part, d'inaugurer la série des conférences de 2015 de série conférences dispositifs, et d'autre part, évidemment, d'accueillir Laurent Génie, qui est professeur honoraire de l'Université de Genève, qui est quelqu'un de célèbre pour ses travaux en esthétique, en stylistique, en histoire culturelle de la littérature, qui est de son premier ouvrage qui m'avait marqué, qui est La terreur dans les signes, autour notamment de Pollan, de réflexion sur la littérature et sur une forme de stylistique spécifique, jusqu'à son ouvrage sur le style en acte, beaucoup plus récent, qui est de 2011. Et puis, Laurent Génie, travaille aussi sur quelque chose qui nous intéressait beaucoup ici à la section cinéma autour du dispositif. Il travaille sur la littérature d'une manière, pas intermédiaire ou pas à travers dispositif, c'est pas quelqu'un qui travaille avec notre concept de dispositif, mais qui travaille sur des textes littéraires en interrogeant la position poétique d'une part, mais aussi la position de l'expérience poétique du côté de la réception du lecteur, du spectateur, en termes intermédiaux, c'est-à-dire en croisant des dispositifs, en interrogeant la peinture et la photographie, la littérature par l'une et par l'autre, et en travaillant sur cette notion d'expérience. Et c'est dans son ouvrage La vie esthétique, c'est notamment quand j'ai lu celui-là, je me suis dit, moi, il faut que tu viennes parler chez nous à dispositif, il est paru en 2013. Et donc, aujourd'hui, alors, c'est dire qu'il faut quand même que je dise une chose tout à fait autobiographique. c'est inviter Laurent Génie, pour moi, c'est quelque chose d'assez important, parce qu'il n'a pas été le directeur de ma thèse, mais c'est presque tout comme, puisqu'il a joué un rôle extrêmement important dans la direction de ma thèse que j'ai faite à Genève, au département de littérature française. Et donc, c'est un moment aussi très important. Donc l'autobiographie compte parce que son dernier ouvrage, Mince, que j'ai laissé là-bas, qui est un livre, parce que Laurent Génie est théoricien, pratique l'essai littéraire, etc., mais il pratique aussi l'écriture littéraire. Il vient de publier, il faut que tu me rappelles...
Ça s'appelle Le lieu et le moment, et ça, c'est paru chez Verdier il y a quelques
semaines. Et donc il m'explique que c'est une autobiographie fragmentaire et non subjective. Chose fondamentale sur laquelle je vais me pencher parce que je vais travailler sur la question et je me réjouis de lire ça, mais c'est juste paru cette année. Donc c'est quelqu'un aussi qui pratique l'écriture de toute façon aussi bien essayistique que littéraire. Donc pour beaucoup de raisons, comme vous le voyez, je me réjouis d'entendre et de le recevoir à la section d'histoire esthétique du cinéma aujourd'hui. Et il va nous présenter une conférence qui s'intitule « La photographie comme dispositif temporel ». Nous allons l'écouter.
Merci Maria de cette présentation. Alors, j'aurais besoin de votre indulgence. Je suis un littéraire de formation, mais je m'intéresse depuis quelque temps, bien sûr, à des questions d'esthétique, depuis longtemps, et depuis plus récemment à la photographie. Vous m'invitez dans le cadre d'une série de réflexion consacrée au dispositif. Je vais essayer de faire un petit bout de chemin tout de même vers cette notion. J'ai sorti deux vieux livres de ma bibliothèque. Je les ai un petit peu époustés. J'ai réfléchi un peu à quel bricolage de dispositif je me disposais. Et je vais vous proposer, au fond, une tentative de définition, évidemment en rapport avec la photographie, et qui empruntera de façon un peu éclectique à des lectures anciennes. Bon, d'abord, et dans un sens très général, j'admettrai qu'un dispositif, c'est un agencement d'éléments qui est destiné à canaliser de l'énergie. Je me rapproche ici des dispositifs pulsionnels de Lyotard, lecture ancienne. Dans le cas de la photographie, au fond, cette définition me paraît littéralement applicable, puisqu'il s'agit de capter de l'énergie, l'énergie lumineuse, et de la transformer en trace. Et je note qu'au passage, il n'y a pas de canalisation sans transformation relative. Mais je voudrais aussi insister sur deux autres caractéristiques, me semble-t-il, du dispositif. La première, peut-être c'est une singularité subjective, mais j'y tiens. Je pense que le dispositif désigne quelque chose d'hétérogène, une composition hétérogène d'éléments. Et là encore, l'appareil photographique m'apparaît exemplaire parce qu'il associe des effets optiques et des effets chimiques qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, enfin, jusqu'à ce qu'un bricolage génial les réunisse. D'une certaine façon, c'est un collage en fait de techniques hétérogènes qui a donné lieu à la photographie. Alors bien sûr, on pourrait ajouter à cette notion de dispositif, je ne parle finalement que du dispositif technique de la photographie, mais bien d'autres aspects dont je ne traiterai pas, les modes de développement, d'exposition, de reproduction, de diffusion des images. Mais je vais avoir un projet beaucoup plus modeste. Et pour en rester sur cette question du dispositif, je voudrais simplement remarquer que cette hétérogénéité des éléments du dispositif, c'est ce qui les distingue des machines, en fait, les plus simples. Par exemple, une locomotive qui transforme uniment de la chaleur en force, mais qui n'est pas hétérogène, au fond, dans sa constitution. C'est aussi ce qui distingue le dispositif du programme, par exemple, du programme. Et de ce point de vue, d'ailleurs, je m'écarterai un peu de la vision assez pessimiste d'un philosophe de la photographie, Wilhelm Flusser, qui tend à identifier strictement l'appareil photographique avec son programme. Et la raison pour laquelle je m'en distingue, c'est que l'une des conséquences de l'hétérogénéité du dispositif, il me semble, c'est que ses effets sont partiellement aléatoires. C'est parce que le dispositif est hétérogène qu'il y a une part d'aléatoire dans les résultats du dispositif. Et il me semble que dans le cas de la photographie, enfin j'essaierai d'en parler, il y a quelque chose de cet ordre, un aléatoire bien sûr qu'on cherche à ressaisir, à maîtriser finalement. Donc il me semble que cette définition peut s'appliquer à la photographie qui convertit bien sûr de l'énergie lumineuse en image, qui convertit aussi, puisque c'est ce dont je vais m'occuper, du temps en traces de temps, des traces de temps. Dans la photographie, il y a des traces de temps qui appellent aussi à un temps qui est celui du regard. Mais du temps, c'est un peu vague, et l'essentiel de ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de distinguer des strates temporelles dans la photographie, des couches temporelles. Et pour annoncer un petit peu le propos, j'en distinguerai trois. Il me semble qu'il y a, quand on considère le temps photographique, on parle de trois couches temporelles. Une première qui est historique, c'est-à-dire le temps de ce qui est représenté, tout simplement. Hein? Il y a une couche temporelle que j'appellerais machinique. C'est le temps qui est celui de l'appareil photographique lui-même, de ses capacités, en fait, à de plus ou moins grande rapidité. Et puis, il y a un troisième temps, qui, je crois, ressaisit les deux premiers, que j'appellerais un temps esthétique, qui est un temps, en fait, de calcul par le photographe, un temps de suggestion et d'évocation à partir des deux premiers. Tout ceci me va pour l'instant parce que je reste dans l'hétérogène et le partiellement aléatoire aussi. Alors je vais maintenant entrer plus dans le vif du sujet. D'abord des remarques un petit peu générales. À vrai dire, je veux surtout parler de la photo argentique, presque uniquement. Et ce serait peut-être dans la discussion, on parlera d'autres choses, mais il me semble que pour qu'il y ait plus de cohérence à ce propos, il faut s'en tenir à ce médium. C'est assez curieux, en fait, que Benjamin reconnaissait une dignité au premier temps de la photographie, aux 10 premières années qui ont suivi son invention, mais il y voyait aussi une destruction de l'aura. Cette thèse est bien connue. Mais pour nous qui regardons ces photos de tout début de la photographie, nous y trouvons au contraire un charme temporel, me semble-t-il. Il y a quelque chose d'un peu contradictoire avec ce qui est la perception de Benjamin. Par exemple, lorsqu'on regarde les photos d'Adjé, vous en avez une ici, ou les premiers calotypes de Talbot, il nous semble au contraire qu'elle restitue de l'aura, en fait. C'était précisément pourtant les photos qui devaient illustrer une perte d'aura. Nous y trouvons une qualité de lointain, une patine, je dirais presque une température temporelle. Je crois que c'est que la photographie argentique nous restitue un temps duratif, effectivement, qui nous manque aujourd'hui. Et on pourrait dire que dans le monde d'immédiateté qui est le nôtre, ce sont presque toutes les formes de durée qui nous manquent. La mémoire, l'attente, la lenteur. On lit parfois, par exemple, dans la médiologie de Régis Debray, que la photo est dénuée de tout marqueur de temps, et que de ce point de vue, elle est dépourvue de grammaire verbale. Ça me paraît assez discutable, et j'essaierai de dire pourquoi. Mais il me semble qu'on peut surtout objecter que les processus de photo, argentique, numérique, relèvent d'un statut sémiologique propre et du coup d'une logique temporelle très différenciée. En tant que trace et indice, la photo argentique porte toujours les marques d'un passé, aussi récent soit-il. L'image digitale, elle est vue avant d'être prise, en quelque sorte. Elle est prélevée sur un flux vidéo qui existe avant la photo. Elle est orientée autrement, à l'envers presque. C'est un futur antérieur, c'est pas un passé proche. Donc, je laisserai de côté ici cette question de la photo numérique pour me concentrer sur la photo argentique durative. Alors, elle ne nous restitue pas toutes les amplitudes de la durée, la photo. Elle nous restitue une seule de ses formes, l'instant, avec ce que l'instant comporte de brièveté, mais aussi d'épaisseur, de rétention et de protension, comme disent les phénoménologues, qui fait que l'instant est toujours plus qu'un simple point du temps. C'est une sorte de grain, de germe temporel. Sans doute, c'était le destin de la photo d'être à la fois la pratique dévolue au recueil de l'instant, faite pour recueillir les instants et en même temps pour les pulvériser de la façon la plus efficace à travers les progrès de l'instantané. Mais même lorsque la photographie est arrivée à montrer des instants, on en verra tout à l'heure, abstraits de toute vie réelle, sans épaisseur temporelle, par exemple des plongeurs arrêtés au-dessus de l'eau, même dans ce cas-là, la photo, en raison de son caractère de trace, a gardé quelque chose d'un processus temporel épais. Sartre aurait dit visqueux. Il me semble que ça peut s'appliquer à cette photographie. Donc, si c'est un constat d'une très grande banalité de voir dans la photo un art de l'instant, encore faut-il démêler des strates dans cet instant, comme je le suggérais tout à l'heure, des strates de temporalité hétérogènes. Et maintenant, je vais les déplier, ces strates, et les considérer avec vous une à une, en commençant par le temps que j'appelle historique, donc qui est celui du représenté de la photographie. Et ici, je repartirai de Barthes et d'une belle métaphore qu'on n'a peut-être pas assez relevée, par laquelle il décrit les premiers appareils photographiques comme des horloges à voir. Alors, horloge, évidemment, il pense à cela parce que les premiers appareils de bois et de cuivre sont aussi encombrants, ou à peu près, que des horloges, aussi incongrues d'allure. Mais horloge, parce que, aussi, la photo donne l'heure de l'instant qu'elle montre. Et elle ne fait peut-être, d'ailleurs, spécifiquement rien d'autre que donner l'heure. C'est ce que Barthes relève dans son essence. Hein. On se souvient de la fameuse formule. Mais Barthes n'est pas le premier à dire ça. Talbot le disait déjà dans The Pencil of Nature, le premier album photographique existant sur calotype, donc sur papier. Hein. Talbot, qui est une sorte de gentleman, bricoleur, invente avec un petit peu de notion de chimie et d'optique la photo sur papier, et il réalise en 1844 le premier album photographique reproductible, voici, à la différence de Daguerre. Et c'est très intéressant parce que il prend un ensemble de photographies sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir, et il les commente à chaque fois, et ces commentaires vont dans tous les sens. En fait, on comprend que la photographie est à un âge où elle est totalement ouverte dans ses possibles. Mais il y a un de ces commentaires qui consonne en fait avec Barthes, et il concerne cette photo, hein, l'entrée de Queen's College à Oxford, que j'ai eu récemment l'occasion de voir en réalité et qui n'a pas changé. Et Talbot dit quelque chose, il dit quand on prend des photographies, il arrive qu'il y a un détail qu'on n'a pas vu et qui apparaît après coup sur la photo. Et le détail ici qu'il relève, c'est l'heure, justement. Il y a une horloge, effectivement, qui, dans cette photographie, donne l'heure. Ah. Et de fait, donc, la photo sonne l'heure historique de l'instant. Ah. Elle le fait doublement, elle date les êtres qu'elle fait voir, leur physionomie, leurs vêtements, leur allure corporelle, l'état des villes, l'état des monuments. Et dans les clichés du 19e siècle, nous regardons avec une curiosité historique les temples de Haute-Égypte, pas dégagés du sable encore, l'encombrement des voitures à cheval sur le Pont Neuf, hein, ou rue Rivoli, la pose de Balzac, main posée au-dessus du cœur, vêtue d'une chemise sans col qui lui donne une allure de forçat ou de futur guillotiné. Et à travers la photo, le XXe siècle ne nous apparaît pas moins historique. D'ailleurs, les cours d'immeubles insalubres d'Adjé, le fiacre new-yorkais sous la neige de Stieglitz, même lorsqu'elle semble faire voir des objets qui sont relativement intemporels, des arbres, le ciel, la photo les date, pourtant, par son style technique. Précision du daguerréotype, qui évoque la netteté d'une gravure, contre chaleur floue du calotype, couleur des tirages, attitude suspendue par les contraintes du temps de pose, tous ces traits datent, sinon le jour et l'heure, comme chez Talbot, au moins l'époque, des procédés et en fait des échantillons historiques de leur technique. Barthes, pour revenir à lui, voit donc dans la photo une essentielle référence au passé, horloge à voir, mais il y a chez lui une hésitation sur le temps verbal exact par lequel s'exprime cette référence. On retient d'habitude son affirmation, je cite, « Le nom du noème de la photographie sera donc « ça a été ». Mais on s'étonne peut-être pas assez qu'il traduise immédiatement ce passé composé par un passé simple, ce parfait par un aoriste, ça continue comme ça, « en latin, dit-il, pédantisme nécessaire parce qu'il éclaire des nuances, cela se dirait sans doute « interfuit ». Oui, mais « interfuit », c'est pas un passé composé. Il y revient d'ailleurs un peu plus loin et de façon un peu marginale. Non seulement la photo n'est presque jamais en essence un souvenir dont l'expression grammaticale serait le parfait, alors que le temps de la photo c'est plutôt l'aoriste, mais encore elle le bloque, elle devient très vite un contre-souvenir. Il y a donc deux modalités de référence au passé. L'aoriste, qui saisit le passé comme une pure événementialité détachée de nous, absolue, solitaire sur la scène de l'histoire. Et le parfait, dont Benveniste disait qu'il est en réalité une modalité du présent et qui marque le retentissement jusqu'à nous de l'événement passé. En fait, ces deux modalités de relation au passé ne renvoient pas à des objets différents. Elles se partagent les mêmes instants photographiques. Selon le regard que je porte sur eux, ils prennent des valeurs temporelles différentes. Je peux m'intéresser à l'archivage automatique du réel, dont la photo est l'agent volontaire, alors je serai curieux de tous les détails inertes qu'elle me livre. Les détails dont toute la valeur est qu'ils furent et ne sont plus. Mais il m'arrive aussi de trouver parfois une puissance de retentissement dans l'instant passé qui vient jusqu'à moi, entre en résonance avec d'autres et se prolonge. À vrai dire, je ne fais ici rien d'autre que lire Barthes avec Barthes, car son couple peut être trop connu des modalités de la réception photographique, studium et punctum, s'inscrit parfaitement dans cette distinction temporelle. Le studium, c'est l'intérêt documentaire que je peux trouver dans tout cliché, en tant qu'il me renseigne sur les apparences du passé. Ce qui fait que la visite d'une exposition de photos peut toujours être à la fois intéressante et futile, même si je n'y trouve aucun intérêt esthétique ou émotionnel, j'y trouverai toujours des renseignements sur le passé proche ou lointain. Renseignements qui n'ont aucune utilité particulière, mais qui peuvent satisfaire ma curiosité. Soit par exemple, cette photo anonyme des fusillés de la Commune. Je suis frappé par deux choses. L'aspect pauvre des cercueils dans lesquels ils sont présentés et la relative petite taille de ces hommes. Je me demande s'ils ont été rapetissés par la mort ou par le point de vue, ou si c'est le signe d'une mauvaise alimentation et d'une relative misère qui devait être celle du peuple. Je trouve là des informations sur la façon dont on vivait. Elles peuvent m'intéresser un instant, mais seulement un instant, puisqu'elles ne servent qu'à former une image du passé. Studium. C'est un passé qui se referme sur lui-même, document, aoriste. Mais pour peu que mon regard s'approfondisse un peu, la même photo peut me toucher par d'autres traits. La nudité des cadavres exhibés, qui donne une importance démesurée et obscène à leur sexe, montre tous ces hommes comme des virilités abattues. L'espèce de mise en scène énigmatique par laquelle on a réuni et presque empilé ces cercueils comme un sinistre tableau de chasse. Dois-je y voir un avertissement ou au contraire un témoignage de l'atrocité destiné justement à survivre dans la mémoire des hommes? Par cela, je peux être touché et cela continue de résonner en moi parce que je sais que tout ce que l'histoire depuis la Commune réservait de massacres, parce que je n'y vois pas un événement isolé, mais le sinistre présage de bien d'autres écrasements des peuples et de bien des traitements inhumains de l'humain. Cela m'affecte ou me point, dit Barthes, par sa signification historique. Le même instant, photographié, aura donc pu pour moi se cliver en saisie aoristique et perfective. Mais ce ne sont pas les mêmes aspects de l'image qui se disputent ces deux temporalités. L'une d'elles relève du pur savoir, l'autre du trauma, qu'il ait une dimension collective ou qu'il soit d'ordre plus personnel. Ce qui se joue naturellement entre ces deux saisies de la trace photographique, c'est au fond un enjeu bien connu de la discipline historique, dont les tâches se partagent entre collecte des archives du temps passé et effort pour donner sens à ces traces refroidies et parfois les faire revivre imaginairement. Les photos, en tant qu'archives automatiques, aggravent le défaut naturel du document qui ne saurait tirer son sens de lui-même, qui en tant que tel montre mais ne dit pas. Parce qu'elles ne choisissent pas mais montrent tout au hasard de la prise et comme sans y penser, les photos sont idiotes, bien que riches, parce que trop riches de significations possibles. Mais comme les archives, longuement conservées et demeurées muettes tant qu'on ne les questionnait pas, les photos peuvent prendre sens. Il suffit pour cela de les restituer à un tissu vivant de relations. C'est par là qu'elles trouveront le pouvoir de nous toucher. Ça, c'est donc la première strate temporelle qui vient avec toute photo. Sa dimension de temps historique qu'encore une fois, je peux appréhender soit à distance, comme curiosité intéressante, soit de façon plus profonde, dans une relation à mon propre temps. Maintenant, je voudrais m'intéresser à la deuxième strate temporelle, qui est aussi impliquée par toute photo, et que j'appellerais, faute de mieux, temps machinique. En effet, l'instant photographique, il est aussi le produit d'un temps photographique propre, un effet du dispositif mécanico-optico-chimique. Et en tant que tel, ce temps ne renvoie plus à aucune expérience vécue, à aucune saisie sensible, à aucun monde objectif. C'est un temps purement imaginaire qui découle de temporalité machinale. On a souvent commenté l'étrange vacuité du boulevard du Temple, photographié par Daguerre en 1839. Le premier à s'en être étonné, c'est d'ailleurs Morse, l'inventeur du télégraphe, qui fait un commentaire sur cette photo, qui, premier, s'étonne du vide du boulevard du Temple. Le seul être vivant qui figure sur cette photo, c'est le client d'un cireur de chaussures, ici, que les nécessités du cirage ont immobilisé pendant un temps de pause involontaire. C'est cette immobilité qui a sauvé sa silhouette de l'invisible. En revanche, les chevaux, les voitures, les passants, tous les êtres rapides ont été impuissants à impressionner la plaque sensible. Et durant pas loin d'un demi-siècle, tous les êtres mobiles, même les plus lents, sont exclus de la visibilité photographique. Leur temporalité est demeurée irreprésentable. La photo s'est d'abord accordée à un temps d'une amplitude bien différente d'une autre, où les instants se mesurent en heures ou en minutes. Un temps monumental ou végétal, celui des statues, des murs, des arbres, lorsqu'aucun vent ne les agite. Monde prémoderne et lent, où l'animation urbaine et les transports rapides n'impressionnent pas. Comme si l'archéologie de la photographie nous replongeait dans un monde, lui aussi, archaïque et lent, bien antérieur au monde moderne qui lui est contemporain, fait de bateaux à vapeur et de locomotives. La faible sensibilité du daguerréotype a remodelé provisoirement notre habitation du visible. Une sorte d'œil artificiel, doté d'une rémanence rétinienne propre, distincte de celle de l'œil humain, a défini ce qui était visible pour lui à chaque moment de son évolution. Et il a imposé au regard humain ses propres critères de vision, filtrant le réel à travers elle. Ainsi, des êtres visibles ont été effacés de la représentation photographique par la faible sensibilité des plaques d'impression. Les boulevards se sont trouvés vidés de toute vie humaine ou animale, parfois à mi-chemin de la visibilité, des êtres éphémères ont acquis une existence spectrale, comme ces fantômes plus ou moins transparents qui hantent encore certaines des photos d'Adjet, devantures de boutique ou passages benjaminiens, où des curieux se sont attardés un instant à fixer l'objectif avant de se détourner. André Gunther a raconté dans sa Conquête de l'instantané l'effort technique de la photographie pour rapprocher la vision photographique de la vision humaine en saisissant des objets de plus en plus rapides. Il a montré qu'un paradigme assez constant d'objets constituait entre 1850 et 1880 le programme idéal de la saisie photographique rapide. L'homme qui marche, la voiture qui roule, le cheval au galop, le navire à vapeur, la locomotive et son panache, la vague déferlante. Un idéal donc de représentation constamment présenté comme déjà réalisé, alors qu'il n'est le plus souvent qu'imparfaitement esquissé. Quoi qu'il en soit, il faut y voir un effort pour naturaliser la vision photographique. Mais le paradoxe, c'est que plus l'instantanéité a progressé, en nous restituant les êtres mobiles, en les ramenant dans la visibilité, plus elle les a arrêtés, en leur donnant une apparence artificielle et fausse. On a vu l'être humain saisi dans des poses incongrues et cocasses. L'instantané révélait moins du vrai que de l'accidentel et de l'imprévu. Cela a pu produire un intérêt de curiosité et de comique involontaire. Mais ces poses jamais vues ont fait mesurer combien l'instant pictural était à la fois plus faux et plus vrai, de figurer un instant contracté, une synthèse temporelle tendue entre rétention et protension, celle même qui donne consistance à l'instant. Au-delà du bizarre, avec les progrès du gélatino-bromure et de l'obturateur, l'instantané s'est ouvert à l'impossible en gagnant en vitesse. Il a fait entrer des invisibles dans le champ de la vision. La position des sabots du cheval au galop, le retournement sur ses pattes du chat qui tombe sur le dos, le plongeur arrêté en plein ciel, le sauteur suspendu en l'air au-dessus d'un dossier de chaise. Mais ces poses impossibles n'appartiennent plus à aucune temporalité. Parvenu vers 1880, au point de son accomplissement, l'instantané a progressivement révélé qu'il tuait l'instant et immobilisait la vitesse. Rien n'est apparu plus figé que la saisie instantanée des mouvements. Donc les variations d'amplitude de l'instant photographique on définit ce qu'on pourrait appeler des objets-temps, parce que leur représentabilité, leur existence visible, est directement suspendue à une certaine lenteur ou vitesse de saisie. Cette temporalité machinique opère des soustractions ou des additions de réel visibles. Elle change avec le perfectionnement de la photo. Elle ne renvoie à aucune forme de temps vécu. Au-delà, elle suggère que des mondes temporels coexistent, qui ne sont pas tous peuplés des mêmes êtres visibles. Sans répondre à aucune autre intentionnalité que celle des possibilités techniques de l'appareillage, elle a fait émerger une temporalité pas exactement fictive, mais irréelle. Et cette déréalisation du temps par l'instantané n'est pas seulement apparue comme irréelle, elle a aussi été pressentie comme destructrice. En se perfectionnant, le dispositif photographique en est venu à volatiliser l'instant, à le dévorer comme un chronos avide et à ne plus nous offrir que le vertige d'une disparition. Non plus cela a été, mais cela fut, et l'instant est mort au moment même de sa représentation et du fait de celle-ci. Cette portée mortifère de l'instant photographique, elle n'a cessé d'être dénoncée depuis les tout débuts de la photographie. La photo tue l'instant et spectralise l'ensemble des apparences. C'est une thématique récurrente de tous les discours hostiles à la photographie. Une remarque de Jean-Christophe Bailly pourrait cependant nous pousser à reconsidérer la forme de violence du dispositif photographique. Plutôt que l'acte photographique n'abstrait et n'amenuise jusqu'au quasi-néant l'instant photographique, il précipite une sorte d'explosion temporelle. Je cite Bailly. En condensant dans la tête d'épingle de l'instant éternisé toute la violence irréductible du passage des heures. On pourrait dire que cette représentation explosive, ou plus, je dirais plutôt implosive, explosive, hante la photographie. J'en trouve les premiers symptômes dans l'attachement d'un Albert Londe à photographier des explosions. Ce choix de sujet n'est pas sans affinité réflexive. La réaction chimique violente, la diffusion lumineuse, la condensation de l'effet en un instant. En 1885, muni d'une chambre stéréoscopique, Albert Londe se rend aux carrières de plâtre d'Argenteuil pour y réaliser une série de clichés d'explosions. Je cite le compte-rendu qu'en fait André Gunther dans sa thèse sur la conquête de l'instantané. Un article illustré de cette pseudo-chronophotographie paraîtra quelques mois plus tard dans La Nature, où Londe, témoignant d'un rare lyrisme, fournit la description de ce qu'il nomme l'expérience. Il s'agit maintenant des propos de Londe. Un coup plus fort résonne et la masse hésitante s'effondre au milieu d'un nuage de poussière en faisant trembler le sol sous nos pieds. À vrai dire, les clichés de Londe montrent plus de poussière que de mouvement, mais le fait que ce dernier y voit des explosions manifeste assez que c'est le sens qu'il attribue à son acte photographique. Au dynamitage des carrières répond l'explosion du temps qu'il pratique par son appareillage même. Et ici, je n'ai pas le temps de prolonger cette réflexion sur l'imaginaire explosif de la photographie, mais Jean-Christophe Bailly l'a en fait largement développé dans l'instant et son ombre en évoquant Hiroshima et l'effet photographique du souffle d'Hiroshima. J'en viens maintenant au troisième temps, à la troisième strate temporelle de la photographie, ce que j'appellerais le temps esthétique. Une temporalité fictive de la photographie ne saurait vraiment apparaître que dans le ressaisissement esthétique de ses déterminations temporelle passive. Elle procède d'une conscience de ses effets temporels et d'une construction délibérée qui ruse avec ces données ou les compose de manière à forger un troisième temps entièrement calculé et fictif. Par exemple, ce caractère explosif de l'instant photographique a été ressaisi sur un mode esthétisant, bien sûr, par le surréalisme. Breton reprendra cet imaginaire explosif dans L'amour fou, à travers les photos de Man Ray, illustrant la beauté convulsive. Mais ici, la photo fige un mouvement à son expiration. Elle le condense, elle le précipite dans l'instant qui en recueille la déflagration. La danseuse de flamenco de Man Ray est saisie dans un tournoiement centrifuge et il est contenu dans les limites du cadrage. Dans son livre Le regard pensif, Régis Durand énumère quelques-unes des stratégies par lesquelles la photographie s'est efforcée d'intégrer la durée au plan fixe de l'image. Et il en distingue trois que je reprendrai, de nature assez différente. Le flou, qui tient à la nature de la trace. L'étagement des plans dans la profondeur du champ, qui tient à la composition de l'image. Et enfin, la séquentialité, qui, depuis Marais, piège les phases du mouvement. Le flou, qui est la plus élémentaire inscription temporelle dans l'image, est particulièrement de nature à nous intéresser, parce qu'il ne s'agit pas d'une donnée référentielle, sauf myopie, on ne voit pas flou, et surtout, on ne peut pas voir naturellement flou seulement certaines parties de l'image. Il s'agit d'une forme temps purement photographique, un effet dispositif qui sera d'ailleurs longtemps banni comme imperfection de l'image. Tant que la photographie a mené sa course à l'instantané, elle a considéré le flou comme une scorie photographique. Ainsi, la photo bougée de Baudelaire par Nadar a sans doute été reçue comme un cliché raté avant de nous figurer admirablement l'impatience de Baudelaire face à la photographie. Sa mauvaise volonté dans la pose, mais aussi son refus de la netteté trop objective et positive. Je vous renvoie ici à la belle lettre qu'il écrit dans les années 1860 à sa mère, lui disant qu'il voudrait avoir une photographie d'elle, mais qui est le flou du dessin. On sait que le pictorialisme a exaucé les vœux de Baudelaire, en généralisant l'esthétique du flou, mais le flou n'y a pas de signification temporelle, c'est une référence purement picturale, post-impressionniste, c'est presque un déni de matière. Le flou ne conquerra de signification temporelle qu'une fois l'instantané maîtrisé, en composition avec des fonds nets, c'est-à-dire au sein d'un différentiel des temps contenus dans l'image. Mais quelle étrange signification, celle d'une traînée temporelle enfermée dans une coupe. Contraction temporelle, crampe de durée au sein d'un temps immobile, le flou de mouvement ne renvoie à aucune donnée sensible. Sans doute est-ce un indice de temps, mais cet indice ne renvoie à aucune évidence naturelle. Nous le saisissons plutôt comme le symbole arbitraire et appris de la durée de l'instant. Ça ne va pas parfois sans effet plastique remarquable. Les photographes se sont volontiers attachés à photographier des flux en mouvement, comme la splendide photographie des cascades de Terni par Robert Macpherson, 1867, où les chutes d'eau apparaissent moins floues que d'une densité et d'une blancheur marmoréenne, offrant l'apparence d'une nouvelle matière laiteuse, minérale et écumante à la fois. Cette matière inconnue a pu ainsi apparaître comme la matière même de l'instant photographique. Au XXe siècle, un photographe comme Wynne Bullock a poursuivi cet effort en offrant au regard de véritables filaments de temps avec ses remous de vagues du Pacifique autour de concrétions minérales. Le long temps de pause, en ralentissant le temps de la vague et en le figeant, l'a étrangement rapproché des coulées géologiques autour desquelles précisément l'eau s'enroule. Le temps machinique et irréel a ici fait surgir la commensurabilité en un même instant fictif du temps long de formation de la roche et du temps instantané de la vague. Ce même temps qui avait longtemps constitué un défi à la prise de vue. Il a rendu visible, par leur ressemblance morphologique, une coexistence temporelle imperceptible autrement. Le second mode de construction de temporalité fictive consiste à faire éclater l'instant en temps simultané, étagé sur différents plans. Une belle photo de rue de Gary Pinogrand, dont on a pu voir récemment une exposition au musée du Jeu de Paume. Donc cette belle photo peut servir ici à l'illustrer. La lumière a cloisonné l'instant en losanges spatiaux où coexistent trois temporalités apparemment étanches. Celle d'un infirme à l'ombre, écroulé de sommeil dans son fauteuil roulant. Celle d'une marche triomphale de jeune femme avançant face au photographe comme sur des pointes de la lumière. Et celle d'un groupe d'apparence plus familiale qui, tournant le dos à ce contraste, guette l'arrivée de l'autobus. Âge de la vie, mais aussi temps subjectif hétérogène, le gouffre d'oubli où stagne l'infirme à l'ombre, la promesse de vie lumineuse du côté des jeunes élégantes, l'attente lasse des promeneurs familiaux. Tout ceci comme offert dans les biseaux du même instant. Là encore, coexistence et diffraction sont purement construits par le médium photographique. Mais une telle construction fictive est peut-être seule à pouvoir figurer quelque chose du choc réel des temporalités qui se heurtent dans une grande ville. Le troisième mode de fictionnalisation du temps est bien connu depuis les travaux de Murray et Muybridge, dont je crois il y a ici plusieurs spécialistes, et je ne m'y attarderai pas, parce qu'il dessine évidemment un point de fuite de la photographie vers des arts du mouvement et du temps continu, comme le cinéma. Ici, on hache l'instant en pause discontinue, toutes parfaitement vraies, mais fictives dans leur arrêt, et qui ne trouvent à se reformer en instant vivant que dans le regard du spectateur. Je voudrais seulement signaler que cette segmentation de l'instant a été très tôt critiquée dans l'histoire de la photographie, et notamment par les futuristes Anton Giulio et Arturo Bragaglia, qui se sont explicitement donné pour projet la représentation du photodynamisme, à savoir la photo du mouvement. Giovanni Lista, qui en fait l'histoire, souligne que leur recherche procède d'une critique de la chronophotographie à la Marais, qui tue le mouvement. Ce refus de la séquentialité trahit une ambition de figurer le mouvement au sein de l'image fixe et pas seulement dans l'œil du spectateur qui parcourt cinétiquement une séquence de phases de mouvement. Leur stratégie propre, dans une de ces phases, a consisté à faire bouger le modèle par mouvement saccadé de manière à produire une substance cinétique plus perceptible pour l'œil mécanique. Ici, un cliché qui s'intitule « La gifle ». Par là, ils adaptaient évidemment le style cinétique de la peinture futuriste contemporaine, mais ils demeuraient aussi tributaires d'une problématique picturale. Par la suite, ils ont aussi élaboré une réflexion plus purement photographique sur des catégories de flou, opposant vers 1911 l'épreuve bougée et l'épreuve mouvementée. Dans la première, il y a un déplacement bref ou une destruction complète des corps. Dans la seconde, seulement leur dématérialisation avec une trace de mouvement. Et ils se sont proposés de produire des images où le mouvement d'un corps apparaîtrait résumé par une suite de formes diaphanes et évanescentes, reliées entre elles par un fluide uniforme de lumière. Ainsi, c'est à partir d'une synthèse du flou et du séquentiel qu'ils ont tenté de figurer l'épaisseur de l'instant. Instant purement imaginaire, entre vapeur et saccade, fruit d'un calcul esthétique et qui répare le suspens visuel de l'instantané. Par là, la photo reconnaît que son objet est de donner une figure à l'instant, comme s'y était attachée avant elle la peinture, mais par des moyens propres et qui ne tiennent plus seulement à la pose des personnages et à leur valeur narrative. Pour conclure donc, l'instant photographique apparaît ainsi comme un temps stratifié. S'il est important d'y distinguer analytiquement des couches temporelles hétérogènes, du temps machinal et du temps humain, du temps actif et du temps passif, il faut aussi reconnaître l'adhérence de ces différentes couches les unes aux autres. De l'historique traîne toujours dans l'instant photographique, qu'il ait été visé esthétiquement ou qu'il se soit déposé passivement dans ses sujets. Ce que date au moins une photo esthétique, c'est l'historicité de cette esthétique. Et de même, le temps machinal de l'instant photographique laisse toujours de son inertie le projet esthétique, le contraint pour une part et le provoque au dépassement. On y reconnaît les possibles d'un moment technique défini, la brièveté ou la longueur du temps de pose. Tout comme du temps esthétique peut toujours réinvestir les clichés les plus documentaires. On a parlé du surréalisme involontaire d'Adjaye, de la façon dont ces images ont été rapportées à la scène d'un crime, quand elles ne visaient qu'une vérité d'archive ou de document pour l'œil, débarrassée de tout pittoresque et de toute anecdote. Ainsi, l'instant photographique est-il un irréel temporel, un temps forgé, comme toutes les temporalités, mais sur un mode impur. Plus que la peinture, la photographie a donné forme à l'instant. L'instant unique dont traitait Lessing était fondamentalement, en termes deleuziens, une image mouvement, et non pas une image temps. Le temps n'est entré en peinture que lorsque la peinture est sortie de l'atelier pour s'affronter à des lumières de plein air et donc aussi à des heures réelles du jour. Mais la nouveauté de la photographie, c'est évidemment d'associer dans une même temporalité instantanée la capture de l'image et son contenu. Il ne faut pas oublier que la photo représente des instants en un instant. C'est ce qui fait d'elle une pratique temporelle et non pas seulement un pouvoir de représentation. Le travail photographique sur l'instant ouvre à une pratique du temps qui s'évade du seul acte photographique pour donner forme à une nouvelle conscience de l'instant. L'instant échappe à l'abstraction de ses définitions négatives. Ce n'est plus seulement ce qui échappe à toute mesure et à toute conscience. Pendant longtemps, on a associé l'instant au clin d'œil. Avec la photographie, on a pu l'associer au déclic photographique. Dans cette métamorphose, l'instant a trouvé quelque chose de concret, une visibilité et même un bruit, celui du déclic. Il s'est montré. Différemment de l'instant unique pictural, il s'est figuré en clichés distendus dans le temps, malgré leur fixité, des images-temps en un sens assez différent de Deleuze, puisque ce dernier part pour penser l'image-temps de l'immobilisation, de l'assagissement des images animées du cinéma. Je vous remercie.
Merci à Laurent Génie pour ce voyage aussi littéraire, parce que c'est aussi à travers l'écriture que l'on entre dans le dispositif, vraiment, dans le sens fort du terme de la photographie à travers ta présentation. mais aussi dans quelque chose que, voilà, que tu nous apportes, qui est cette lecture esthétique, et notamment la lecture des images en termes de production du sens comme expérience esthétique, que, voilà, qu'on pratique beaucoup sur le film, à certains égards, et qu'on pratique peut-être moins sur la photographie à la section cinéma, sauf que Olivier, évidemment, doit sans doute passer par des choses de ce type-là. Mais, alors voilà, j'ouvre le débat. Je ne vais pas dire combien de questions. Olivier.
Moi, j'ai une question sur un quatrième temps de la photographie, qui est le temps du regard. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est toujours sous-jacent dans les textes sur la photographie, mais jamais vraiment formulé. Qu'est-ce que la photographie fait au temps de l'attention? Et bon, au départ, j'imagine, on a plutôt l'impression, j'ai pas le bot, que c'est une image qui est ralentie, parce qu'il faut beaucoup scruter. Et ensuite, il y a vraiment la question de l'accélération, en fait, du regard donné à une image. Aujourd'hui, je pense que c'est très... Enfin, ça connote beaucoup des textes négatifs sur le flux des images, etc. Je pense qu'il y a aussi des discours positifs dans les années 20, autour de Molino, Joe Pacheco. Et je voulais savoir, encore une fois, j'ai l'impression que c'est là, mais que c'est rarement... Ça émerge peu souvent. Donc je voulais savoir si à travers vos parcours, à travers les textes, vous avez vraiment trouvé des moments où c'est formulé, ce problème du tour du regard.
Moi, je pense qu'il est formulé chez Baudelaire à propos de peinture, mais que ça s'applique parfaitement à la photographie. Pour Baudelaire, la critique de la photographie est en fait une critique du réalisme pictural, d'une façon générale. Ce qui reproche au réalisme pictural, c'est que c'est des images, comme on dirait aujourd'hui, saturées, hein, qui ne sont faites que d'accumulation de détails. J'évoquais sa demande du flou du dessin, mais si on lit Baudelaire, on comprend que ce flou, c'est la place du spectateur et du temps, en fait, du spectateur. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'une représentation, pour qu'on puisse entrer dedans, il faut qu'elle ait une part d'inachèvement, en quelque sorte. Donc il y a une esthétique de la peinture qui explique pour partie la condamnation de la photo par Baudelaire. Je crois qu'on peut rapatrier en même temps sa réflexion sur la photo elle-même. Je pense qu'effectivement on vit dans une époque de haute définition où la saturation par le détail est si complète qu'il n'y a pas de temps en fait possible d'entrer dans ces images. D'une certaine façon, elles se suffisent à elles-mêmes. Donc je pense que le problème du regard est aussi un problème d'esthétique, en fait. C'est-à-dire qu'il doit y avoir aussi quelque chose dans l'image qui ouvre un temps au regard. Les deux questions me semblent étroitement imbriquées. Hein. Voilà, moi, c'est ce que c'est ce que ça m'évoque. Il n'y a de tant de regards que quand il y a une construction esthétique qui laisse une place possible à l'achèvement de l'image. C'est Hans Belting qui dit à propos qui définit l'image en disant: pour qu'une image existe, il faut un acte d'animation par l'imagination de l'image. Si cet acte n'est pas possible, il n'y a pas véritablement d'image. C'est comme un texte qu'on ne lirait pas, d'une certaine façon. Hein, c'est comme un texte qui resterait sans qu'on déchiffre ses signes. Hein. Mais cet acte d'animation, je crois qu'il peut être sollicité ou pas, en fait, par les images qui nous envahissent. Je pense que la difficulté de la photographie aujourd'hui, être photographe aujourd'hui, c'est un truc incroyable dans la lutte contre le déferlement d'images. Arriver encore à faire voir quelque chose en photographie, c'est vraiment un travail parce que la visibilité générale des images fait obstacle en fait à toute entrée imaginaire. Récemment, il y a une campagne de iPhone 6, photos prises avec iPhone, toutes magnifiques, mais c'est des photos qui barrent la vue d'une certaine façon. Enfin, c'est des photos, et c'est partout, on le sait bien maintenant. Enfin. Donc la question, je crois que le temps de regard, il s'amenuise avec la saturation de l'image. Plus l'image est saturée, moins en fait elle retient. Et elle ne retient pas parce qu'il n'y a pas d'entrée imaginaire dedans. Il me semble que c'est la raison pour laquelle elle ne retient pas. Voilà, c'est ce que me suggère votre question.
Voilà.
Moi, je réponds volontiers parce que j'avais effectivement cette idée d'une autre temporalité encore, d'une cinquième temporalité peut-être, qui en fait, il y a la temporalité machinique au moment du faire, il y a aussi la temporalité peut-être technique de l'ensemble du dispositif et des pratiques photographiques, c'est-à-dire ce que vous avez montré sur la photographie de Baudelaire par Nadar, c'est aussi le temps d'installer l'appareil dans un certain endroit, puis des fois la chambre photographique c'est lourd, il faut les produits, quand on est dans un certain état de la photographie, il faut amener les produits avec soi, et il y a tout ce temps d'installation qu'on retrouvait effectivement dans l'argentique, avec l'idée qu'on a 24 images sur notre pellicule, que donc il va falloir prendre le temps de cadrer correctement, parce que sinon, rater, ça a des implications autres qu'avec les pratiques contemporaines. Et quand on entend les gens qui font, enfin, il y a cette idée qu'il y avait une temporalité dans le faire, qui a changé avec les pratiques contemporaines, où effectivement il y a une possibilité, disons, d'archiver à l'infini comme ça. Qui fait que... Alors, la question qui m'est suggérée par les images que vous montrez et puis par un peu le propos, c'est dans quelle mesure est-ce que dans l'image, éventuellement, ou dans le rapport du spectateur à l'image, il y a quelque chose à un moment qui se construit d'un rapport avec cette temporalité-là. C'est-à-dire dans quelle mesure cette temporalité longue ou courte du fer, de la lourdeur, de l'appareillage, etc., elle s'inscrit dans l'image, dans quelle mesure ce que vous suggérez, c'est-à-dire ce qu'on voit dans Baudelaire, c'est l'agacement de la longueur, alors que est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui apparaît de cette temporalité qui n'est pas a priori dans l'image mais autour dans le faire de l'image mais qui se retranscrirait dans une temporalité du côté du récepteur, du côté du spectateur?
Oui, alors j'ai pas vraiment de réponse à cette question, mais mon intuition c'est que oui, vous avez raison, il y a quelque chose qui doit en rester, aussi du processus temporel de révélation, enfin, tout se passe comme si on avait tout de même une intuition sensible de ce temps dans les photos anciennes qui nous parle pas seulement alors comme documents pittoresques, mais qui ont une patine temporelle particulière. Voilà. C'est vrai, qui tient peut-être à la douceur aussi de la révélation argentique, à toutes sortes de choses. Enfin, c'est difficile à analyser, mais voilà.
On pourrait analyser ça en termes esthétiques. C'est-à-dire que de la même manière que quand tu es sur la question du flou ou de l'explosion, soit que ce soit du côté de la forme ou de la composition d'image que met en place la photographie, ou du côté de l'iconographie aussi, on pourrait aussi imaginer qu'il y a aussi de l'auto-référentialité en termes de fabrication de l'image. Ne serait-ce que même par des procédés même classiques, de voir l'appareil dans l'image, de voir le reflet du photographe. Enfin bon, là, c'est presque un peu des stéréotypes, mais il y a un terme à saisir, en termes esthétiques, pas seulement le temps de la fabrication d'instant, je dirais, mais aussi le temps de cette durée, tu vois, que le photographe a dû faire une énergie carrément dans le sens
très
fort. Et je pense qu'il me semble qu'il y a aussi la possibilité d'analyser l'image comme toi tu fais aussi avec ça.
Oui, Peut-être j'ai essayé de le suggérer à travers l'imaginaire explosif, qui est quand même un truc extraordinaire à propos de la photo. Enfin, ouais. Il y a un imaginaire de l'explosion. Hein,
Et de l'accident. Comme la fameuse photo du train, du train oui. Vers Montparnasse qui tombe. C'est aussi un après, mais ce n'est pas au moment où il tombe. Ce n'est pas un instantané.
C'est ça qu'on pourrait trouver aussi avec effectivement la belle série de Londres sur les explosions. C'est-à-dire que une explosion, en fait, qui est difficile, ce n'est pas tant le temps d'inscription d'image, c'est de déclencher au moment précis. Donc, c'est le temps de l'attente de l'explosion et de trouver le bon moment pour le déclenchement, qui est le temps qui est autour et qui fait qu'effectivement, il y a un côté déceptif, parce qu'à un moment, en fait, il n'y a pas d'instant d'explosion, il y a un avant, il y a un après, c'est de la poussière ou pas, il n'y a pas. Et donc, dans la série, finalement, ce qu'on pourrait peut-être retrouver, c'est justement cette idée qu'il faut être là longtemps, attendre, et puis trouver le bon moment pour déclencher, mais en fait, il n'y en a pas.
Moi, je veux bien poser une question en attendant. Donc, formidable. Je viens parce qu'on est dans le fil côté spectateur. Donc, j'étais tout à fait intéressée parce que tu parles de belting, cette idée de produire. Comment c'était cette expression que j'ai notée évidemment parce que. Que tu viens de dire, non pas dans l'exposé. Ah oui, c'est l'acte d'animation d'image par le spectateur. Cette idée qu'on va le mettre en mouvement, évidemment, ça m'intéresse parce que c'est la synthèse du mouvement. Donc il y a bien l'idée, quelque chose de l'histoire de la photographie du cinéma qui va se passer dans la tête du spectateur. Donc on va animer, synthétiser le mouvement. Alors je me disais, en même temps, tu as parlé de. Enfin, la question du spectateur, elle était dans ta conférence. Et puis elle était notamment à un moment où je t'ai trouvé, je me suis dit, t'es sévère quand même avec les signes. Parce que tu nous as parlé de Lessing, puis tu dis, bon, c'est dans la peinture, finalement, il y a quelque chose d'autre dans la photographie. Et je me dis que finalement, que malgré tout, cette modélisation de l'instantanéité, de l'instant pictural par Lessing, elle pointe justement quelque chose qui est dans l'explosion, ou quelque chose dont on crame encore aujourd'hui, même dans la théorisation de la photographie ou de la peinture, qui est l'instant prégnant. Qui est évidemment pas ce point culminant, mais ce point où le spectateur va animer. Alors, évidemment, c'est les concepts de Lessing, c'est l'imagination de l'époque 18e. Il y a quand même ça. Et dans cette iconographie de l'explosion, on pourrait dire qu'il y a une espèce de strate de lecture. Alors, pour moi, c'est des strates presque épistémologiques, c'est-à-dire que l'un traverse l'autre. Il y a l'instantané dans une modélisation début 20e. Fin 19e, très bergsonienne, c'est l'instant unique, enfin, instant unique, non, mais instant vraiment le plus court instant, c'est la chose indécomposable. Et puis en même temps, à l'intérieur de ça, on a réintroduit une forme d'autre temporalité, mais qui est quand même héritée de la littérature, de l'histoire de l'art, qui est quand même l'instant prégnant. La question de l'explosion et même l'acte d'animation de l'image, on l'entend. La chronophotographie, le cinéma d'animation, on entend tout ça. Puis en même temps, l'acte d'animation de l'image est là dans la tête du spectateur, donc c'est l'imagination du spectateur, donc c'est exactement le modèle de l'instant prégnant qui traverse les siècles. Et tu vois, il y a des strates comme ça. C'est pour ça que je me dis, t'es sévère avec les signes, parce qu'il me semble que
non, moi, je ne suis pas du tout sévère.
Ah non, je rigole. Il me semble que tu disais qu'il n'était plus dans la photographie, qu'il n'était plus dans l'acte, qu'il n'y avait plus cette possibilité de.
Non, enfin, c'est-à-dire, il y a un type d'instant photographique qui sont les signaux. Je vous signale un bouquin qui est paru il n'y a pas longtemps, là, d'Arnaud Classe, du temps dans la photographie. J'y pense parce qu'il distingue quatre types d'instants, justement, photographiques. Alors, il y en a un qui serait tout à fait les signaux, c'est ce qu'il appelle l'instant crucial, hein, qui correspond à l'instantané, mais où il y a tout de même. Un avant et un après, comme on devine. Et puis alors, il y a des instants plus complexes chez Classe. Il y a ce qu'il appelle l'instant subitiste. Alors, l'instant subitiste, c'est une sorte d'impossible, en fait, de l'instant qui est comme pris dans un gouffre temporel. Et puis alors, il y a des instants qui évoquent un peu les images temps de Deleuze. Il y a l'instant qui coule. Alors, ce sont au contraire des photographies plutôt immobiles, mais qui donnent l'impression d'un temps continu. Enfin, il a toute une catégorisation, très intéressant, puis très intéressante aussi parce qu'il a une très riche culture photographique. Je veux dire, le monde de la photographie, c'est un monde infini. Il y a beaucoup de références, de noms et d'exemples. Pour revenir à Belting, bon, Belting, il le prend dans un sens très littéral, animation, parce qu'en fait, dans ce livre qui s'appelle Anthropologie des images, pour une anthropologie des images, Belting, qui est un historien de l'art, se sépare en fait un peu de sa discipline, il adopte un point de vue anthropologique, et la question qui se pose, c'est comment on utilise culturellement les images. Et du coup, sa vision en fait des images, c'est que c'est des sortes de jouets qu'on anime comme des poupées. Hein. Donc il met un peu le Moïse de Michel-Ange sur le même plan que la poupée d'une gamine. C'est, pour lui, on a des conduites par rapport à... En cela, d'ailleurs, il est tout à fait fidèle à l'usage étymologique des imagines, puisque, comme vous le savez, les imagines, c'est des petites figures des ancêtres, et les Romains, de temps en temps, ils les sortent, ils les baladent, ils font une commémoration avec, on leur fait jouer des rôles, quoi. Les imagines, c'est pas des images simplement plates qu'on regarde, c'est des trucs à qui on fait jouer un rôle mémoriel et on leur fait participer. Hein. Belting, pour lui, les images rentrent en fait dans un contexte d'animation imaginaire, mais dans un sens très très littéral. Ouais, hein. Voilà, c'est juste pour que tu ne penses
non,
pas.
Non, mais on est bien d'accord. Mais c'est pour ça que je disais qu'il y avait aussi ce côté presque film d'animation dans cette. Mais il y a.
Mais là où je crois on peut le retrouver, c'est que ce qu'il dit est également vrai. En fait, les images ne nous arrivent jamais vierges d'un jeu d'animation, en quelque sorte. Même, on va avoir une expo de peinture, une expo de photographie, il y a du discours, il y a toute une animation autour qui fait qu'on n'est pas dans un rapport simplement brut aux images. Hein.
Ouais. Deuxième question. J'étais très intéressée. Enfin, toute cette question du flou, évidemment, est absolument passionnante. Alors, j'ai envie de revenir à Marais, mais oui. Parce que ça, il pose la question du statut de la photographie scientifique et donc du flou là-dedans. Et souvent, ce qu'on dit en général au premier niveau, c'est qu'il y a la photographie chronophotographique scientifique, elle doit être hyper lisible, donc nette, il ne faut pas un seul bouger, etc. etc. Alors ce qui est formidable, c'est évidemment qu'on voit que dans la pratique scientifique, c'est pas exact, enfin c'est ça reste vrai, mais en même temps, l'expérience photographique montre que le scientifique va récupérer dans son système scientifique, tout ce qui sera du bouger, du flou, etc. Dans une interprétation scientifique, par exemple, dans ses expériences sur les fumées, notamment, où il met les photographies, les tuyaux de fumée, où il va faire des clichés, alors c'est plus des chronophotographies dans le sens propre du terme, mais il s'intéresse à comment ça tourbillonne, etc. Donc ça va dans le sens de notamment les tourbillons de l'eau, ça rejoint tes exemples. Et ce qui m'intéressait, c'est que il y a là une récupération. Ce n'est pas proprement esthétique, mais il y a le scientifique travaille sur une construction de sens sur un objet qu'il appréhende aussi de manière esthétique. C'est-à-dire qu'il donne un sens qui n'est pas dans le sens de l'art, mais qui est quand même dans l'esthétique, dans l'esthésis, disons, dans la forme de l'image. Il a cette lecture-là. Et je me demandais si tu avais réfléchi à ces types de corpus, à la part scientifique, dans le rapport à l'esthétique.
Non, très franchement, non. Je pense que, bien sûr, il y a de l'esthétique qui traîne. c'est, je veux dire, la pratique photographique est une, donc elle, ouais. elle peut pas être, elle peut n'avoir pas d'intentionnalité esthétique, mais il y en a toujours qui traînent de l'esthétique, c'est évident, non, dans, donc, mais c'est pas du tout une question que j'ai étudiée, ouais, ouais, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, je pense pas beaucoup plus que moi.
Alors, c'est une interprétation possible.
J'ai beaucoup aimé cette expression de Baudelaire, le flou du dessin, et ça m'a interpellée parce que quand il parle du flou du dessin,
oui.
et non pas de la peinture, parce qu'en effet, dans le dessin, il y a ce geste en fait de la rapidité, de l'hésitation, qui travaille une sorte comme ça de flou, mais le flou est absent de la peinture.
Pas tout à fait. Hein, ouais.
Tout à fait. Enfin, en tout cas, je me demandais en quelle mesure c'est pas justement dans la photographie, dans ce travail-là, que on va élaborer un flou, on fait surgir un flou et donc une forme visuelle de mouvement et qui n'existe pas dans la peinture. Et donc, enfin, cette impatience de Baudelaire qui dit j'aimerais que ça ait le flou du dessin, ben, son référent est le dessin, mais en fait. Dans les peintures, ben, il va condamner le détail trop extrême, ce genre de choses, mais est-ce que la photo n'est pas justement le bon modèle qui permet le flou et qui permet comme ça cette trace du temps, enfin.
Bon, alors, je crois que s'il y a une peinture du flou, bien sûr, les deux grands peintres de Baudelaire, c'est Delacroix, dont la touche est globalement floue, si on peut dire. En tout cas, elle s'oppose... aux réalistes de la même époque qui font du léché et qui eux ont une esthétique pré-photographique. Hein, la peinture donc de la Roche, des Horace Vernet et autres, elle a quelque chose de pré-photographique hein, dans le léché, etc. Et puis l'autre peintre, c'est Constantin Guisse qui est un peintre d'esquisse en fait, hein, qui est une sorte d'ailleurs de pré-reporter parce que Constantin Guisse avait couvert la guerre de Crimée en faisant des croquis, pas encore des photos, mais il aurait sans doute été photographe un peu plus tard. Hein, je crois que c'est pensable en peinture, mais ce qui est nouveau sans doute en photographie, c'est la composition du flou et du net, parce qu'en peinture, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup d'exemples. Hein, des plans en fait, l'étagement entre flou et net, enfin il y a toujours eu une perspective atmosphérique, des choses comme ça en peinture, mais pas exactement cette distorsion qu'il y a par exemple dans les photos que j'ai montrées de Wynne Bullock ou de Macpherson, cette magnifique photo, cette photo extraordinaire des chutes de Terni ça coule, d'un côté c'est flou et de l'autre côté c'est d'une netteté extraordinaire la photo. Tous les rochers autour de la chute sont d'une netteté parfaite. Hein. Donc ça, cette composition, il me semble que cette espèce de lutte des temporalités, elle est peut-être plus spécifiquement photographique, enfin dans son esthétique. Mais peut-être je me trompe.
Il me semble qu'on, enfin chez Manet, enfin je trouve c'est un contre-exemple, c'est-à-dire que Manet quand même sur la question des fumées, c'est quand même très. Ouais. Je pense à ce tableau, évidemment j'ai pas le titre du tableau, mais où il y a un enfant derrière une grille, et il y a un train, et il y a de la fumée derrière, c'est hyper connu, enfin évidemment comme tout Manet, mais il y a quand même quelque chose sur la fumée et le flou, et il y a pas, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette enfin, c'est marrant parce que moi, j'aborde les choses pour voir comment les concepts, les motifs traversent d'un médium à l'autre, d'un dispositif à l'autre. Et donc, du coup, je vois plutôt comment, du coup, il y a aussi déjà de la durée encore dans l'instantané. Et puis, comment il y a déjà dans la peinture, qu'il y a dans la peinture, il y a déjà l'iconographie de l'instantané, de celle du nuage, ou de, enfin, les fameux nuages de un blanc, petit clip. C'est ça. Et donc l'idée de cette matière qui permet justement l'évanescent, et puis on le retrouve en cinéma, là je vais en parler cette semaine dans le cours, mais chez Dulac et tout de suite la coquille clergémène, c'est la fumée qui devient le moment. Alors là c'est la durée évidemment. Donc il y a c'est à la fois iconographique et puis évidemment dans le traitement esthétique, tout dans, dans le traitement de la forme, qui fait qu'il y a quand même, chaque médium va trouver l'idée du flou. C'est pas le même flou parce que c'est pas le même, c'est pas, comme disait Ray Bazin, c'est pas la même genèse de l'image. Du coup, ça devient peut-être autre chose, mais il y a des moments, il y a des lieux de rencontre. Et l'esquisse dont vous parliez, c'est ça, il me semble que ça partait de ça. Et du coup, on peut aussi voir ça, non pas comme des ruptures des médiums entre eux, comme des grands basculements, mais plutôt comme des réappropriations de formulations, soit de l'instant prégnant dont je parlais tout à l'heure, soit d'iconographie, soit de, tu vois, on pourrait aussi se dire, ça retravaille quelque chose dans un autre médium. Et c'est pour ça que je pensais tout d'un coup à Manet. Comme exemple de flou, la fumée comme flou. Mais c'est pas le même flou, évidemment, parce qu'il n'est pas produit de la même manière. Donc on est d'accord que là, ça va.
Oui, c'est pas une trace. Enfin,
c'est pas voilà, exactement.
Il a pas, c'est pas. C'est pas une trace temporelle.
C'est ça.
Pour moi, simplement pour rebondir aussi sur, sur des choses là, sur les questions de second aparté, sur le positionnement du spectateur par rapport aux images et la question de l'esthétique. Ce qui est frappant aussi dans je crois, ce que vous avez présenté, c'est l'idée d'une position du spectateur qui est toujours fluctuante. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui va être absorbé par une certaine, dans la temporalité historique, par un certain rapport. Et puis il y a la question d'un moment esthétique, mais un moment qui pourra ne pas l'être, aborder la photographie de manière différente. Et ça, je trouve ça assez intéressant de nous souvenir de ça pour nous qui réfléchissons en termes de dispositif aussi. C'est-à-dire qu'il y a une place de du spectateur dans le dispositif, mais que cette place, elle est toujours fluctuante. Et qu'on pourrait dire peut-être que le facteur de l'esthétique là-dedans, c'est peut-être un énorme facteur de fluctuation, d'enjeu là-dedans. Alors, je ne sais pas, si c'est une question ou si...
Oui, moi, je dirais que ce que vous dites, c'est le corollaire de ce que j'essayais de dire, c'est que c'est du temps très complexe, en fait. Quand on regarde une photo, l'expérience, disons, qu'on a d'être en face d'un temps, c'est très complexe, c'est difficile à démêler, à ce que, encore une fois, c'est une sorte de curiosité pour du passé. Est-ce qu'on est dans le temps du cliché lui-même, est-ce que et effectivement du coup je crois que il y a cette mobilité, cette instabilité du regard qui fait que aussi bien sûr très souvent on s'arrête à un seul des temps et puis hop voilà on passe. C'est pas évident qu'on dépiote tout ça, on peut se contenter d'un seul mais je mettrais en rapport donc la stratification temporelle avec l'instabilité du regard et le fait qu'effectivement il bascule à des choses très différentes. C'est pas la même chose de regarder les détails pittoresques du temps passé dans une photo ou d'entrer dans son temps de composition esthétique. C'est deux attitudes très différentes, hein. Et indépendamment des deux temps subjectifs qu'évoque Barthes, aoriste ou parfait, c'est-à-dire qui est le seul vrai temps de la mémoire, celui où la mémoire vient jusqu'à nous, où c'est un temps qui a son prolongement dans notre présent, hein, ou pas. Ça aussi, ça c'est quand même, je sais pas, il y a peut-être des photos, là aussi il faut se poser la question de savoir de quelle est l'objectivité des photos à susciter tel ou tel regard.
Toi tu as une réponse parce que c'est dans ta méthode, c'est-à-dire que quand tu analyses c'est sur une base concrète, enfin il y a un stimule, enfin en termes d'expérience.
Si j'y croyais pas j'arrêterais de regarder, si je croyais pas qu'il y a des éléments concret, positif dans les images qui orientent le regard, c'est pas. après, il n'y a qu'à dire ah, bah, moi j'y vois ci ou moi j'y vois ça, puis c'est terminé. Mais je crois pas que c'est comme ça que ça marche. Parce qu'il y a quand même un certain accord sur la richesse de certaines images et sur la pauvreté d'autres images. Enfin, je n'ai pas l'impression d'être tout à fait seul parfois dans.
Charlotte.
Il n'est pas nécessaire d'intégrer, il me semble, un peu plus peut-être la question des autres éléments qui ne sont pas des éléments iconographiques, mais qui sont le titre, la date qui est donnée. Enfin, est-ce que ça ne fait pas partie aussi de ce qui va créer cette possibilité de lecture fluctuante à partir du moment où je vais. Ben là, par exemple, les roses et 1913, et puis l'auteur. Enfin,
oui.
Est-ce que ça, ça ne fait pas partie aussi de. Qui accompagne cette expérience, peut-être qu'on aurait tendance à laisser comme une expérience très immédiate de la photographie, mais il y a aussi tout ce, ce discours.
Oui. Alors, oui, ça me paraît tout à fait évident qu'on voit avec du contexte, hein, ça c'est très clair. Alors, j'en ai pas parlé parce que c'est pas nécessairement du contexte qui oriente. Sur la question temporelle, mais ça peut l'être. Vous avez raison, bah, ne serait-ce qu'une date, évidemment, la date des photos. Mais pour l'essentiel, bien sûr, je suis d'accord avec vous, les images ne viennent pas toutes seules. Hein. Les images, elles viennent dans des configurations muséales, dans des configurations de diffusion, de livres, de. Bon, voilà, on les regarde avec tout ça, bien sûr. Bien sûr.
Alors, si vous êtes d'accord, parce que le temps passe, on va peut-être s'arrêter là.
Mm-hmm.
Et puis, je ne peux que remercier Laurent Génie et pour
merci à vous.
Sa présentation qui est aussi d'une sensibilité aux objets. Merci.